La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans le faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Dans un contexte de backlash, concept porté par Suzanne Faludi qui désigne le recul des droits des femmes après chaque avancée, la petite musique masculiniste fait peu à peu son chemin au sein de notre espace social, noyé dans un discours entrepreneurial alléchant, notamment pour les ados en quête de réussite financière. Mais qui sont les masculinistes ? Y a-t-il réellement une crise de la masculinité dans notre société ? Est-il réellement plus difficile aujourd'hui d'être un homme qu'une femme, alors que l'égalité homme-femme n'est toujours pas atteinte ? Pour discuter de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir Simon Couture, anciennement reporter pour le service de l'information de Radio-Canada et dorénavant journaliste indépendant et qui réalisait le documentaire Alpha où il est allé à la rencontre d'influenceurs masculinistes canadiens et d'adolescents afin de comprendre ce qui se cache derrière les discours violents, misogynes et homophobes qui caractérisent la sphère masculiniste. Bonjour Simon.
Bonjour.
Bonjour. Ben merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre documentaire Alpha, que je crois qu'il a été sorti en 2024, si je ne dis pas d'erreur, mais qui a été diffusé récemment en France.
Oui.
Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais vous êtes reporter pour Radio-Canada. Donc vous avez sorti ce documentaire, mais c'est pas dans le cadre de Radio-Canada, c'est vous le faites, vous l'avez autoproduit ou comment ça s'est passé?
En fait, j'ai été reporter à un certain moment pour Radio-Canada, pour Vice aussi auparavant, mais depuis 3 ans, je suis indépendant.
D'accord, ok. Et du coup, ben justement, ce documentaire Alpha que vous avez fait, vous pouvez prendre un peu de temps pour nous le présenter. Et pourquoi vous avez souhaité produire ce documentaire?
C'est un documentaire qui a été fait dans la foulée d'une certaine montée de discours. La masculinité toxique, la mouvance mâle alpha avec le porte-étendard qui était Andrew Tate à l'époque, qu'il est toujours, mais il était beaucoup plus présent dans l'espace public dans ces années-là, 2023-2024. Et je voyais que autour de moi, des jeunes hommes se revendiquait de ce discours-là, mais pas toujours au niveau du discours toxique, mais il y avait aussi tout l'aspect entrepreneurial, l'aspect entraînement, l'aspect discipline qui était autour de ça. Donc c'était il y a en fait comme dans beaucoup de choses dans la vie, il y a pas que du mauvais. Et mais à mon avis, ça c'était un espèce de cheval de Troie pour passer certaines idées justement qui sont plus toxiques, qui sont plus masculinistes, disons.
Ouais, et puis on le voit très bien dans votre documentaire, les différents influenceurs que vous avez approchés, bah on le voit, ouais, il y a en premier lieu soit un discours axé sur le sport, donc entraînement sportif, et dans leurs vidéos justement avec des phrases, bah voilà, très qui fait référence au discours masculiniste, et oui, pareil, ouais, le discours très entrepreneurial, mais ouais, comme vous dites, c'est vraiment un cheval de Troie pour amener en fait un discours masculiniste de façon un peu déguisée, quoi.
Exact, voilà.
Et au regard de votre documentaire, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la soi-disante, en tout cas, crise de la masculinité. Et comment justement, au regard de votre documentaire, vous pourriez vous définir la crise de la masculinité? Hop hop hop, avant de continuer, sachez que chez Tract, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Notre souhait est de déconstruire et d'analyser les effets néfastes de notre société actuelle, comme les discriminations, les pressions sociales ou encore la crise environnementale, de déconstruire les évidences qui nous font penser que trop souvent la vie est ainsi faite, tout en réfléchissant et en promouvant de nouvelles façons de concevoir cette dernière à travers un prisme poétique. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur move.tract.fr, le lien est en description de cet épisode, afin de découvrir l'ensemble de nos champs d'action entre production médiatique et artistique ou encore organisation de débats et pourquoi pas adhérer à notre association si vous souhaitez rejoindre notre collectif et nous aider à développer nos contenus et nos actions. Merci et bon podcast.
Ben, en fait, c'est pas clair, tu sais, cette crise de la masculinité-là. Certains vont tu sais, ceux qui, comment dire, qui dénonce ou qui souligne en fait cette crise de la masculinité-là, vont dire que les hommes sont en perte de repère au courant des dernières années, vont citer notamment les taux disproportionnés de suicide, par exemple, chez les hommes, d'itinérance, de dépendance à certaines, aux drogues notamment. Mais après, certains autres intellectuels vont souligner le fait que cette crise de la masculinité-là est en fait pas du tout nouvelle, dans le sens que, tu sais, et on va même jusqu'à l'Antiquité où on va dire que, bon, de tout temps, en fait, à chaque fois que les hommes perdent un peu de leurs privilèges, vont clamer ou vont dénoncer cette crise de la masculinité-là, puis ça va jusqu'à l'Antiquité où les hommes dénonçaient le fait que les femmes aient accès au char, par exemple, et l'Antiquité romaine. Donc, c'est une question qui est complexe, parce que c'est vrai que ces statistiques existent là, mais par rapport à, comme je l'ai dit, à la consommation de drogue, à l'itinérance, au suicide, mais ce que des groupes de la mouvance Mon Alpha vont souvent pointer du doigt, c'est le féminisme comme étant la raison ou la cause en fait de cette crise de la masculinité là, et c'est à mon avis c'est là que ça devient très problématique.
Ouais, puis il y a une question de, pour certains hommes, au final, d'avoir peur de perdre un statut de dominant, quoi, de perdre la domination qu'ils peuvent avoir sur, notamment les femmes, quoi.
Ouais, puis aux dernières nouvelles, ça a absolument pas changé cet aspect. Tu sais, je veux dire, c'est souvent un terme qui est utilisé dans les domaines de gauche, là, mais je veux dire, on vit effectivement dans une société patriarcale. Je pense qu'il n'y a absolument pas de doute là-dessus si on regarde l'énorme majorité, l'écrasante majorité de nos dirigeants, l'écrasante majorité des dirigeants d'entreprise. Je veux dire, on est encore là. Tu sais, je veux dire, l'égalité de droits est atteinte, en tout cas dans une société comme le Québec ou le Canada ou la France. Mais après, si on regarde en pratique, je veux dire, les salaires sont encore beaucoup moindres chez les moins importants chez les femmes. Puis pour revenir à ça, là, au niveau de, tu sais, je veux dire, les conseils d'administration des grandes entreprises, ce ne sont encore que des hommes, là, en tout cas en grande, grande, grande majorité. Donc, on est loin d'avoir perdu nos privilèges, les hommes blancs, disons.
Ouais, puis j'avais vu, moi, qu'il y avait un terme aussi qui revenait pour expliquer ce phénomène. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'illusion d'égalité, où bah justement, bah, comme vous dites, en droit, oui, certes, il y a une logiquement, il devrait y avoir une égalité qui devait être permise, mais on voit bien, oui, que statistiquement, bah, il y a plus de chefs d'entreprise ou de chefs d'État hommes, mais les quelques femmes, on va les mettre tellement en avant qu'il y a cette illusion de croire, bah oui, c'est bon, il y a l'égalité. Alors qu'en fait, bah là, pas du tout, quoi.
Non, non, mais en fait, je veux dire, les statistiques sont là pour le prouver, là. Je veux dire, comme je pense que c'est bien, là, de comment dire, de souligner puis de célébrer le fait que des femmes aient accès à ces postes-là, mais comme je dis, tu sais, je veux dire, on est loin de l'égalité ou l'équité, là, absolument pas.
Ouais, et puis on le voit très bien aussi dans tout ce qui est métier. On voit bien qu'il y a encore enfin, comme une sorte de ségrégation sociale entre les hommes et les femmes, où les femmes occupent encore les postes les moins bien rémunérés ou les plus pénibles. On pense notamment à tous les métiers du soin, tout ce qui est infirmière, tout ça, ou dans le nettoyage, bah, c'est majoritairement des femmes.
Ouais, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, certains vont dire que justement, il y a comme certains métiers plus genrés où les hommes n'ont peut-être pas accès, ou je veux dire, les hommes ils ont une pression sociale d'exceller, enfin, justement, d'avoir de renvoyer cette image de l'homme mâle alpha, musclé, riche. Je veux dire, c'est déplorable, à mon avis, de penser que c'est ça le modèle suprême à atteindre lorsqu'on est un homme. Mais en tout cas, pour en revenir à ça, je veux dire, l'équité en pratique est loin d'être atteinte.
Et est-ce que le terme de masculinité toxique n'est pas trompeur dans le sens où il y a notamment la sociologue, alors j'ai peut-être mal prononcé son mot, mais son nom, mais Raewyn Connell, bah, qui explique voilà, qu'il y a différentes en fait catégories de masculinité et qu'il y a déjà en fait des catégories d'hommes entre guillemets en souffrance, comme ceux entrant dans le champ de la masculinité opprimée ou marginalisée. Donc voilà, est-ce que ce terme-là, en fait, de dire il y a une masculinité, il y a une crise de la masculinité, comme si que la masculinité renvoyait à un seul imaginaire, à une seule réalité, n'est pas trompeur?
Ah, complètement, mais je pense qu'il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes, mais en même temps, la vérité, c'est que, comme je le disais, c'est qu'il y a ce, comment dire, il y a ce modèle, puis on l'a dit, comment dire, ce modèle peut-être très, très, très superficiel, justement, qui est renvoyé par tous ces influenceurs, par les réseaux sociaux aussi, mais tu sais, je sais pas, ce qui est souvent décrié, c'est qu'il y a notamment un manque de modèles pour les jeunes hommes de masculinité positive. Après, tu sais, je sais pas, tu sais, moi, je veux dire, je suis pas certain d'être 100% d'accord avec cette affirmation-là, étant donné que je crois que y a pas besoin de fouiller longtemps pour en avoir des modèles de masculinité positive. Puis je veux dire, on est au lendemain du spectacle de la mi-temps de Super Bowl, puis en voilà un bon modèle de masculinité positive quand on parle de Bad Bunny, ou je sais pas, tu sais, il y en a plusieurs bons modèles. Mais c'est vrai que ce qui est souvent décrié, c'est cet aspect d'uniformité de la masculinité. Puis, tu sais, moi, je trouve ça dommage là que lorsqu'on parle de masculinité, ben éventuellement, ben on ce qui est en sous-texte, c'est souvent la masculinité toxique. Je pense que c'est effectivement, en tout cas, si c'est pas trompeur, c'est très dommage.
Oui, puis ce qu'il faut rappeler, c'est que cette notion de mâle alpha, en fait, vient d'un malentendu, parce que, enfin, c'est notamment dans le bouquin Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire effaçait les femmes, de Titu Lecoq et Marie Dubois, là, qui est sorti en France, où ils expliquent elles expliquent que cette notion de mâle alpha, en fait, vient d'une observation d'un scientifique d'une meute de loups. Mais en fait, il y a une erreur, parce que la meute de loups, c'était une meute de loups qui est en captivité. Et en fait, en réalité, cette notion de mâle alpha n'existe pas. Et donc, en fait, tout ce discours-là, En fait, pour de vrai, est complètement mis à terre, parce que c'est un truc qui est complètement faux à la base, quoi.
C'est vrai, dans un niveau biologique, c'est une fausseté. Même, je pense, chez les primates, on l'a pas vraiment, tu sais, on a souvent, on cite parfois les gorilles, tout ça, pour parler des mâles alpha, puis ça a l'air que c'est erroné aussi à ce niveau-là. C'est pas ma spécialité, là, mais ça a l'air que, en fait, ce que j'en lis, c'est que c'est là aussi c'est erroné. Donc c'est ironique de penser effectivement qu'on a basé toute cette image de l'homme fort suprême comme étant l'homme mâle alpha. Puis l'autre ironie aussi, c'est que souvent ces mâles alpha là vont se retrouver en groupe aussi pour genre on appelle ça des bootcamps. Tu sais, il y a quelque chose d'aussi ironique de voir un groupe d'hommes qui se revendiquent alpha. Donc c'est peut-être un peu c'est drôle de le voir comme ça, mais effectivement c'est basé sur une erreur au niveau biologique.
Ouais, puis même je trouve que aussi les différents podcasteurs ou influenceurs que vous avez interviewés pour faire le documentaire. Pour revenir à ce que disait Raylene Connell, elle parlait du groupe suprême, c'était cette masculinité hégémonique qui passe notamment par les figures entrepreneuriales ou sportives. Mais en fait, elle explique que c'est pas des choses qui sont... c'est pas une masculinité qui est très répandue en fait dans la société, mais c'est une masculinité où beaucoup d'hommes se réfèrent. Et c'est un peu comme les influenceurs que vous avez pu interviewer. En fait, c'est pas des gens qu'on voit à chaque coin de rue, mais c'est quand même des hommes de référence pour beaucoup, quoi.
Ouais, mais après, dans le cadre de ce documentaire-là, le marché que représentent les trois influenceurs à qui je parlais, je veux dire, c'est le marché québécois. On est très 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 loin du marché américain ou même du marché français, donc. On parle d'émules, là, à tout le moins, d'Andrew Tate. Donc, mais c'est vrai que, il y en a un là-dedans qui se dit très riche. Mais encore une fois, tu sais, je veux dire, on parle pas non plus, là, de milliardaires à la Jeff Bezos non plus, là. Ou même à la Donald Trump. Ouais, la Donald Trump qui est souvent cité comme une espèce de mâle alpha suprême, là. D'ailleurs, c'est un peu, je crois, qui a été... le documentaire a quand même fait grand bruit au Québec lorsqu'il a été diffusé. Puis je crois que c'était notamment en raison du fait que c'est arrivé juste après la seconde élection de Donald Trump. Donc ça il y avait vraiment un lien au niveau de l'actualité.
Et il y a un truc qui est assez poignant aussi dans votre documentaire, c'est qu'au sein des différents témoignages masculinistes recueillis, il y a l'idée que la domination de la femme est inscrite dans les gènes de l'homme et donc elle serait naturelle. Ce qui n'est évidemment pas le cas, ce que démontre dans le documentaire François Dupuy-Déry, mais il y a aussi des exemples de sociétés matrilinéaires et matrilocales. On mettra les définitions dans les notes du podcast qu'on peut retrouver, par exemple, chez les Mozo en Chine. Est-ce que finalement, ce discours des masculinistes n'est-il pas là pour justifier le patriarcat et un modèle de société occidentale traditionnelle?
Il se fait clairement dans cette lignée-là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin, justement, dans l'histoire des sociétés occidentales dites traditionnelles, dans le sens que, je veux dire, ce qu'on prône, c'est un modèle où l'homme est pourvoyeur, la femme reste à la maison. On parle aussi de l'école à la maison, et donc tu sais, oui, c'est, même si je veux dire la société occidentale est patriarcale depuis plusieurs siècles, on fait un bond en arrière de quelques décennies seulement, je crois.
Et on se rend compte aussi que il y a aussi la religion qui revient aussi dans votre documentaire et qui sert le propos, notamment. Alors je sais plus quel influenceur le dit, mais il y a cette idée de L'homme est soumis à Dieu et la femme est soumise à l'homme, quoi.
Oui, ben c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, de plus en plus à la mode. Puis ça revient encore une fois avec avec ce retour à des valeurs traditionnelles. Puis bon, ça, tu sais, on l'aborde plus ou moins dans le documentaire, mais je veux dire, c'est je pense que c'est très 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 bien ancré dans ce nouveau nationalisme chrétien qui a lieu aux États-Unis avec Stephen Miller, avec J.D. Vance, et ce retour à... Donc, puis aussi Charlie Kirk, cette idée de comment dire, des trad wives aussi, de ces femmes qui restent à la maison. Puis bon, justement, on parle de femmes traditionnelles. Donc... oui, ce retour-là à ce conservatisme religieux qui est présent.
Et vous, quand vous avez... Alors, c'est peut-être compliqué de répondre à cette question, mais est-ce que vous sentez que... voilà, les différents influenceurs que vous avez pu rencontrer, est-ce qu'ils sont vraiment attirés par leur religion en tant que telle? Est-ce qu'ils sont vraiment croyants? Ou est-ce que pour eux, ils se sont rapprochés de ça parce que ça faisait, entre guillemets, écho à leur discours?
J'ai envie de dire que c'est la deuxième option, dans le sens que je suis plus ou moins encore en contact avec eux, même si oui, là, on échange un peu encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais dans les deux cas là, qui se revendiquaient de la religion catholique, dans les deux cas, c'est Joel McGurk et Julien Bournival. Et dans les deux cas, c'était quelque chose de très, très récent dans leur vie. Donc, je pense qu'ils embrassaient ce catholicisme-là ou ce christianisme-là. Je ne suis pas dit par dire par opportunisme, mais enfin, c'était nouveau pour eux et j'ai l'impression que ça fait partie un peu du... je sais pas, des fois il y a des mèmes là qu'on parle de starter pack là, ça fait partie un peu du starter pack de l'influenceur dit mâle alpha traditionnel.
Et d'ailleurs, comme vous êtes du coup toujours en contact avec eux, ils ont pu vous refaire un retour sur le documentaire. Enfin, est-ce qu'ils l'ont vu et puis ils en ont pensé quoi de leur côté?
Comment dire, dans les trois cas, les sur le coup. Il était assez content du traitement du documentaire. Tu sais, moi, j'ai rien trafiqué là. Tu sais, je veux dire, souvent ces gens qui sont plus peut-être à droite, qui sont plus habitués à des modèles plus de podcasts fleuves là, de quelques heures à la Joe Rogan ou à la Jordan Peterson, par exemple. Sont très, très, très suspicieux du montage et des médias traditionnels, disons. Et j'ai pas, comment dire, il était assez satisfait, justement, de ce montage-là. Après, pour Julien Bournival, c'est le seul qui, en bout de ligne, était un peu critique, mais c'est pas nécessairement du documentaire plus que de la couverture médiatique, dans le sens qu'il a été... Il a été invité à plusieurs grands plateaux, notamment Tout le monde en parle, là, qui existe encore ici au Québec là, et qui a encore un grand succès, où il y a eu un certain retour du balancier. Et c'est là aussi, c'est souvent compliqué, j'ai l'impression, d'inviter ce genre de personnages sur des plateaux en direct. Et là, il y a eu un certain backlash, là, si vous me passez l'expression, pour lui. Mais en tant que tel, le documentaire était assez bien reçu.
Dans un article, j'avais vu dans le journal La Presse que on parlait tout à l'heure du discours sur l'entrepreneuriat et la responsabilisation colportée par ces influenceurs masculins touche une corde sensible chez bien des jeunes hommes, mais que vous ne croyez toutefois pas une seconde que ceux-ci ne sont pas attirés par le caractère misogyne des propos tenus par ces mêmes influenceurs. Quand on analyse un peu le fait que le sexisme est profondément ancré dans la structure même du capitalisme, est-ce qu'au final votre intuition n'est pas la bonne, quoi?
Ça se peut, ça se peut. Je suis pas sûr que, enfin, que je disais que je crois pas une seconde qu'il soit attiré par ce. Peut-être que c'est ça qui a été rapporté, mais je pense qu'il y a une certaine partie qui, oui, là, qui ça fait bien leur affaire d'embrasser ce modèle peut-être un peu plus patriarcal. Mais peut-être ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que je crois qu'au courant des dernières années, ces influenceurs de la mouvance mâle alpha, Andrew Tate pour nommer que celui-ci, profité un peu de cette instabilité économique, ce contexte inflationniste où tu sais, on parlait aussi de la crise de la masculinité, et aussi l'aspect que le décrochage est plus important chez les jeunes hommes. Et j'ai l'impression qu'un gars comme Andrew Tate l'a très 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 bien compris, ou quelqu'un comme Jordan Peterson aussi l'a très bien compris, dans le sens que ils offrent des académies en ligne où les jeunes hommes vont avoir un retour souvent beaucoup plus rapide sur leur investissement. Et je pense que même le système académique traditionnel doit se questionner, en fait, sur le fait que, pourquoi ces jeunes hommes vont rapidement se tourner vers ces modèles-là, qui, en bout de ligne, effectivement, vont colporter une certaine misogynie. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois pas que c'est tous les jeunes hommes qui se tournent vers des académies comme celle de Andrew Tate ou de Jordan Peterson qui embrassent une misogynie ou un sexisme d'emblée.
Ouais, mais en tout cas, on le voit dans le documentaire, parce qu'à un moment donné, vous êtes dans une école et...
Ouais.
Enfin, voilà, et puis justement, il y a des jeunes, là, je sais plus quel âge ils ont dans l'école, là, mais...
Au lycée, ouais.
Mais en tout cas, ouais, on voit que le discours, en partie, t'es quand même bien véhiculé, quoi. Et c'est que là, même au niveau de l'école, parfois, ça a l'air compliqué de démonter un peu tout ça, quoi.
Ouais, ouais, effectivement, puis... Ce qui est intéressant avec ce passage-là, c'est qu'on avait un petit échantillon qui n'a pas du tout été filtré, là, dans le sens que je n'avais aucune idée que dans la classe, il y allait avoir un jeune homme qui avait déboursé pour The Real World, qui est l'espèce de d'académie en ligne d'Andrew Tate. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que... l'enseignante nous disait que avant la pandémie, le discours était vraiment différent. Et ça, c'est arrivé après la pandémie, justement. Puis j'ai l'impression que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces inquiétudes au niveau financier, ces inquiétudes au niveau de l'employabilité après la pandémie, mais aussi j'ai envie de dire le modèle qui est renvoyé par tellement de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit par ces influenceurs là, par la culture rap américaine, le bling, tu sais, je pense que c'est vraiment ça a été beaucoup encouragé au courant des dernières années, donc oui, c'est présent au niveau de l'école. Puis je le disais en début d'entrevue, c'est une des raisons pour lesquelles ça m'intéressait de travailler sur ce projet-là, parce que je le voyais que des jeunes hommes ados, des enfants d'amis, des gens proches de ma famille, le discours d'Andrew Tate avait percolé.
Et est-ce que aussi il y a peut-être un parallèle à faire avec nous aujourd'hui on vit dans une société qui, on va dire, est portée par une idéologie qu'on peut qualifier de néolibérale et qui est basée en gros sur une surresponsabilisation de l'individu qui le transforme notamment en machine qui doit sans cesse maximiser son capital. Quand on voit notamment aussi les discours, vous en parlez tout à l'heure, mais voilà, on voit que les différentes personnes que vous avez dans votre documentaire parlent justement de cette responsabilisation en tant qu'homme, être le pourvoyeur de sa famille, le protecteur, atteindre le succès matériel et financier. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce parallèle à faire là avec l'idéologie un peu néolibérale, politique, dans laquelle nous vivons actuellement, quoi?
Ouais, vraiment, moi-même, tu sais, certains j'irais peut-être un peu plus loin, même des influenceurs à qui je parlais se revendiquaient comme étant libertariens aussi. Là. Ouais. Donc, on est là-dedans aussi. Puis, tu sais, quelque chose qui m'avait frappé, c'est que l'entrepreneur est vu un peu comme la chose la plus noble et la plus alpha qui soit. Tu sais. Puis après, tu sais, je crois pas du tout que c'est tous les entrepreneurs. Faut pas mettre tous les entrepreneurs dans le même bateau. Puis c'est bien d'être entrepreneur, mais en même temps, je veux dire, c'est vraiment ça, comme l'aspect self-made man, l'aspect puis tu sais, l'entrepreneuriat devient un peu aussi la compagnie, l'entreprise devient un peu un club social. Ça, je trouve ça aussi très intéressant, où on va partager en fait, même au-delà de partager des plans d'entraînement, une espèce de club de lecture, on va les imposer même. Il y a l'aspect très, c'est ça. Mais oui, effectivement, il y a cet aspect néolibéral, voire libertarien, qui est très, très présent.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, en France, le libertarianisme, enfin, même en Europe, ça n'existe pas trop. C'est que c'est plus une notion américaine, mais en gros, le libertarien, pour un peu expliquer, c'est une idéologie où il y a une réduction, on va dire, au minimum de l'État et tout est régi au maximum par le marché, quoi.
Exactement. C'est Ayn Rand, Mises, en tout cas, c'est beaucoup. En fait, ça vient beaucoup de l'école d'Autriche, mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir le plus petit apport de l'État et de tout privatiser, puis à sa version la plus pure, ça va même jusqu'à la police peut même être privatisée. Donc c'est assez particulier comme façon de voir. Puis au courant des dernières années, j'ai envie de dire, celui qui a été un des gros porte-étendards de ça aux États-Unis, c'est Elon Musk, tu sais. Et qui voulait justement là, faire le ménage avec le fameux Dodge là aux États-Unis ou Javier Milei en Argentine.
Ouais, puis c'est intéressant en fait ce parallèle d'avoir absolument cette réussite individuelle en tant qu'homme, quoi, alors que en fait les sociétés humaines, il n'y a jamais eu d'individualisme au final. À travers l'histoire, ça a toujours été des trucs qui ont été collectifs. On dit bien que l'homme, effectivement, est un être social, etc. Donc, en plus, cette question individuelle, pour de vrai, existe même pas du tout, au final, quoi.
Ouais, mais en même temps, ce qui... Effectivement, mais dans le cas des gens à qui je parlais, c'est beaucoup la notion de la famille nucléaire aussi, qui est très, très, très présente. Qui est vraiment au cœur de tout ça, comme l'homme pourvoyeur, puis bon, une famille nucléaire composée d'un homme et d'une femme là à ça. Donc il y a vraiment aussi ce tu sais, dans chez Andrew Tate, en tout cas, il y a clairement aussi cette notion de il y a la misogynie, mais aussi la transphobie, l'homophobie, la grossophobie. C'est très, très, très présent. Mais effectivement, l'individualisme est au cœur de cette idée-là.
Et quand vous voyez, justement, si on reste sur le cas de figure des jeunes hommes, on va dire, qui rejoint cette mouvement, alors, parfois, du coup, peut-être malgré eux... Je crois que j'ai vu dans une interview, vous me dites si je me trompe, mais vous avez une fille ou peut-être des filles.
Ouais, j'ai deux filles, ouais.
Et est-ce que vous, ça vous, ouais, est-ce que vous, du coup, bah voilà, de voir des jeunes hommes qui sont, on va dire, dans cette culture-là, qui peut potentiellement en plus Bah voilà, enfin, je sais pas quel âge a vos filles, mais fréquentez aussi vos filles, est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous en ressortez de tout ça?
Ben, oui et non, mes filles sont petites, là, mais après, comment dire, tu sais, moi, je suis pas vraiment dans le journalisme de solution, là, dans la vie, là, donc on apporte, tu sais, à la fin, on aborde certaines pistes de solution, mais c'est ce qui, à mon avis, en ressort le plus, c'est la littératie médiatique, comment dire, les bonnes valeurs inculquées à l'école, mais aussi à la maison. Puis nous, on a envie, avec ma compagne, d'inculquer de bonnes valeurs, puis qu'elles soient bien encadrées à travers tout ça. Donc, je dirais pas que ça m'inquiète outre mesure. Puis comme je disais, elles sont petites, puis tu sais, je pense que l'aspect des mâles alpha, c'est quand même une espèce de retour du balancier, tu sais, dans le sens que quelques années auparavant, on parlait beaucoup plus de diversité, d'équité, d'inclusion, le mouvement woke, etc. Puis là, ben, je pense que ce mouvement des mâles alpha là est un peu aussi, un retour du balancier ou un cycle qui va probablement revenir vers la gauche éventuellement. Mais tu sais, je termine le documentaire en disant ça, que j'ai pas envie que mes filles soient soumises à qui que ce soit. Mais après, t'es assez optimiste à ce niveau-là.
Ouais, et puis d'autant plus, vous le montrez aussi dans votre documentaire, que ces hommes-là que vous interviewez ont des femmes qui partagent leurs idées aussi.
Ouais. Puis, tu sais, moi, je les juge pas, ces femmes-là. Je veux dire, elles font, tu sais, comment dire, moi, mon enjeu, c'est pas ces individus-là qui décident de vivre comme ça. Je veux dire, si elles ont envie... De faire l'école à la maison, si elles ont envie de je veux dire, justement, pour en avoir des enfants, s'occuper d'enfants à temps plein, c'est un boulot à temps plein pour vrai, là. Donc, il y a pas d'enjeu là, à mon avis. Moi, l'enjeu, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et de dire que tout le monde devrait vivre comme ça. Et il est plus là, mon enjeu, l'enjeu à mon avis, parce que si ces femmes-là ont envie d'être chrétiennes, d'être maman à la maison, de faire l'école à la maison, de ne pas travailler, je veux dire, moi, il y a grand bien leur face.
Est-ce que aussi vous pouvez peut-être nous expliquer le parallèle que vous avez fait entre le complotisme et la sphère androsphère? L'androsphère, c'est un mouvement qui se préoccupe de la condition masculine, où il y a notamment des sur des réseaux, des forums, des hommes vont se rassembler pour échanger sur la condition masculine, sur leurs difficultés à rencontrer des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce parallèle que vous avez fait du coup entre l'androsphère et le complotisme?
Ouais, ici au Québec, on appelle souvent ça la manosphère aussi. J'ai l'impression que je sais pas si c'est la même chose, Ben, premièrement, moi, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé au mouvement d'opposition aux mesures sanitaires durant la pandémie au Québec et au Canada. J'ai fait un balado puis un documentaire qui s'appelle Conviction à ce sujet-là, où je suivais là, des leaders de cette mouvance-là. Et j'étais aussi, j'ai couvert de près là, tout ce qui était le convoi de la liberté ici au Canada, qui est un mouvement de camionneurs qui a littéralement occupé la capitale du Canada, Ottawa, pendant 3 semaines pour protester contre les mesures sanitaires au Canada. Okay. Et je vois premièrement chez ces la manosphère ou l'androsphère, des figures de proue, en tout cas des influenceurs, qui étaient premièrement présents chez les deux, dans les deux mouvances. Qui sont, je veux dire, chez les mâles alpha, j'ai retrouvé ces gars-là qui étaient présents dans ces mouvements anti-mesures sanitaires durant la pandémie. Après, je pense que là où ça se rejoint, c'est beaucoup sur le manque de confiance ou la rupture, en tout cas, avec les institutions, que ce soit médiatique, politique. Et par exemple, j'ai mentionné à plusieurs reprises le fait que beaucoup de ces mères alpha-là, ou en tout cas ces familles-là, vont faire l'école à la maison. Mais une des raisons pour lesquelles ces gens-là vont faire l'école à la maison, c'est qu'ils ne font plus confiance au système d'éducation. Ils considèrent que le système d'éducation veut inculquer des valeurs woke, des valeurs libérales à nos enfants. Et on voit dans nos institutions un grand complot, puis on va même jusqu'à dire que le fait qu'on dise aux femmes d'aller travailler, ben c'est un complot pour qu'il y ait deux fois plus de travailleurs et deux fois plus de taxes perçues. Donc c'est ça, c'est vraiment une crise de confiance en nos institutions politiques, médiatiques, plus particulièrement.
Ok, ouais, ben je sais pas si c'est une réalité comme ça, nous en France ou en Europe. Je sais pas, toute l'histoire des taxes, tout ça, c'est vrai que c'est voilà, je sais pas nous du tout si on a cette réalité là en France ou pas, quoi. Mais c'est...
ouais, est-ce que nous on a aussi ces notions de, enfin bref, notamment durant le Covid, il y a eu aussi c'est une notion de complotisme qui est arrivée, mais c'était plus sur le fait peut-être de... les gens avaient peur, enfin ceux qui étaient là-dedans, de plus avoir le contrôle de leur vie, en gros, quoi. Ils avaient peur que, que l'État prenne un peu trop le contrôle sur eux. Là, je pense que sur le modèle plus québécois et peut-être nord-américain, c'est un peu différent, du coup. Ouais.
C'est peut-être différent, mais j'ai l'impression que ces nouveaux nationalismes-là, en France, en Europe en général, tu sais, je veux dire, sont très empreints de cette rupture-là de confiance envers les institutions. Puis bon, moi je pense que ça va jusqu'à la théorie du grand remplacement, notamment, qui est une théorie complotiste aussi. Puis je fais peut-être des liens un lien bancal, mais moi j'ai l'impression que même bien avant la COVID-19, je veux dire, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, par exemple, en France, ouais, qui était en rupture de confiance envers les institutions politiques et médiatiques.
Bah, de toute façon, oui. Et puis dans les Gilets jaunes, de toute façon, il y avait énormément de théories du complot qui circulaient aussi.
Ben voilà, enfin, c'est ça.
En France, aujourd'hui, des fois, on a tendance à le présenter, ce mouvement, ce qui était un mouvement citoyen et qui a aussi permis de... Bah, même si Emmanuel Macron n'a pas vraiment, en France, pris en compte les doléances des Gilets jaunes, mais en fait, j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup... Enfin, on a un peu oublié ce côté-là, sphère complotiste, actuellement, et qu'on se porte un peu plus sur le mouvement social qui était les Gilets jaunes, mais on l'a un peu mis de côté, quoi.
Dans mon souvenir, les Gilets jaunes, il y avait un peu de tout et n'importe quoi, en
fait.
Oui,
mais
Et ce qui était pareil aussi dans le mouvement anti-mesures sanitaires, t'avais des gens... très hippie de gauche mais il y avait aussi c'est des gens de l'extrême droite qui se retrouvaient dans cette, encore une fois, dans cette remise en question des institutions, du gouvernement, et dans ces théories du complot-là, à mon avis.
Mais les Gilets jaunes, de toute façon, moi, de mon souvenir, c'était beaucoup plus... Enfin, c'était un des mouvements qui était en France. En France, il y a toujours eu des mouvements sociaux qui ont été historiquement portés par la gauche. Mais les Gilets jaunes, pour le coup, étaient vraiment plus marqués extrême droite, dans mon souvenir.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que ça a quand même été, enfin, écoute, déjà, ça fait un certain moment, mais j'ai quand même l'impression que ça a été ça a eu une influence quand même sur la mobilisation qui a eu lieu pendant les mesures sanitaires.
Ouais, c'est possible, ouais, c'est clair. On avait aussi une dernière question, notamment après vos recherches et la réalisation du coup d'Alpha. Que pensez-vous aujourd'hui des hommes qui affirment qu'il est devenu difficile d'être un homme, voire même plus facile d'être une femme?
Moi, je crois que c'est complètement faux. Dans le sens, je crois que c'est vrai là que il y a eu comment dire, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu c'est justement la certaine mouvance woke qui a peut-être eu un ressac peut-être après ces mouvements sociaux là mais lorsqu'on regarde encore une fois je veux dire les statistiques c'est absolument faux, en tout cas tout le moins au niveau statistique et scientifique là, c'est absolument faux que c'est plus difficile d'être un homme qu'une femme en Occident, puis encore moins dans certaines sociétés ailleurs sur la planète.
Mais ce qui est toujours très compliqué, justement, bah on en revient aux statistiques qui montrent factuellement la réalité, et puis on se rend compte que, mais c'est vrai dans d'autres domaines, notamment dans le domaine écologique, en fait, c'est les statistiques font pas vraiment le poids, quoi, contre tous ces discours, quoi.
C'est vrai. Non, c'est effectivement vrai. Je veux dire, puis encore une fois, on revient à la crise de confiance envers les médias. Je veux dire, et je pense que tous les mouvements dont on a parlé depuis tout à l'heure, ce qu'ils ont aussi en commun, c'est que c'est une espèce de consommation en chambre d'écho, là, en silo d'informations sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça a été très 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 exacerbé par les podcasts au courant des dernières années. Puis même je le vois dans mon travail, c'est même de plus en plus présent à gauche, notamment aux États-Unis où les gens font de moins en moins confiance aux médias dits traditionnels, aux médias, on appelle ça des fois des médias d'héritage, parce que les gens vont avoir leur propre canot, leur propre podcast, leur propre page sur les réseaux sociaux. Donc, on consomme de l'information entre nous et on se conforte dans nos idées. Et autant les médias n'ont plus... ont moins de valeur qu'auparavant, mais même on remet complètement en question la science. Là. Ça fait partie de ça fait aussi partie, comme on le dit, de ce point commun entre tout ce qui est complosphère et manosphère.
Et ce qui est très compliqué, justement, vous parlez des médias. Nous en France, par exemple, on a CNews qui est la première chaîne d'information de France, mais qui appartient à Bolloré et qui clairement... D'ailleurs, il y a d'autres médias qui ont montré que... Enfin, ce qu'ils racontaient, c'était de la merde, quoi. Mais c'est une chaîne qui est sur la TNT, donc qui bénéficie d'un canal qui est accessible très facilement en France, qui est une grande chaîne. Et en fait... Dans les faits, c'est qui raconte de la merde. C'est basé sur des chiffres faux, sur des donc c'est compliqué en fait aussi de se dire comment on fait confiance aux médias et en même temps quand des grands médias comme ça se mettent à raconter n'importe quoi.
Je pense qu'il y a Fox aussi qui est un bon exemple aux États-Unis.
Ouais.
C'est vrai. Après. Je veux dire, il faut faire confiance aux journalistes. C'est parce qu'en fait, dans le cas de CNews puis dans le cas de Fox notamment, ce qui est, je veux dire, je suis pas un grand consommateur de CNews. Je sais qu'il y a, Mathieu Bock-Côté qui vient de chez nous, qui est souvent présent sur CNews. On parle de commentateur, on parle de chronique, on parle d'opinion plus que de faits. C'est là où je crois...
Oui, puis ils sont pas journalistes, en fait.
Ben voilà, c'est ça, c'est l'enjeu premier, en fait. C'est que je pense qu'il y a de plus en plus... Il y a un mélange dans les médias traditionnels, puis je veux dire, moi, je pense qu'il faut être capable de faire une autocritique lorsqu'on est dans les médias traditionnels, et j'en suis... Au courant des dernières années, il y a eu une surreprésentation de l'opinion qui fait en sorte que les gens sont peut-être un peu perdus sur c'est une littératie médiatique dont je parlais tout à l'heure qui est importante, d'être capable de comprendre ce qui est l'opinion, c'est quoi, de comprendre c'est quoi des faits, mais aussi, je veux dire, ici au Québec, on a la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, on a des normes et pratiques, on a un conseil de presse, il faut être capable de je veux dire, de mais ces institutions-là sont de plus en plus remises en question par la population, mais aussi par certains empires médiatiques, donc c'est effectivement un problème.
Ouais, puis faut savoir, en fait, il faudrait vraiment que les citoyens retrouvent un vrai esprit critique et pas se contenter d'un seul canal de diffusion, mais trouver cette pluralité de l'information.
Et puis qu'ils soient aussi, mais après ça demande du temps, mais être éduqués à vérifier des sources, à croiser de l'information, mais c'est que ça demande du temps et tout le monde n'est pas formé à ça.
Ouais, puis c'est que c'est pas le même métier qu'être chroniqueur ou ou faire de l'opinion. Mais après, moi, je considère que, je veux dire, les gens qui prennent un micro, puis qui ont accès à ce micro-là, qui ont accès à cette tribune-là, c'est surtout sur une chaîne comme CNews ou comme Fox, on a le devoir de faire cette corroboration-là d'informations. Mais j'ai envie de dire, un gars comme Joe Rogan a ce devoir-là aussi, puis il le fait pas toujours non plus, tu sais, malheureusement.
Eh ben merci, Simon.
Avec grand plaisir. Salutations.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur notre site move.tract.fr, rubrique blog, et vous trouverez également un lien dans la description de cet épisode pour découvrir le travail de Simon Coutu. Nous vous conseillons d'ailleurs vivement de visionner son documentaire Alpha. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract ou celui de SinsNothing en tapant sins.nothing ou tract.move dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.